Christian Patos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes d'Azène de Vaucluse. Je vous rencontre dans une école de Vaucluse, d'Avignon, une école REP, mais dans un quartier difficile. On dit du Vaucluse que c'est un département qui à la fois a une forte démographie scolaire, donc beaucoup plus d'enfants à mettre à l'école, et d'autre part qui a une pauvreté, et pas simplement des poches, une pauvreté.
Oui, alors, du point de vue de la démographie, soyons clairs, on est plutôt sur la globalité du département, sur une démographie stagnante. On attend pour la rentrée prochaine plus 18 élèves, donc c'est pas significatif. En revanche, on connaît des mouvements de population intradépartementaux qui font que, pour faire simple, les zones plutôt rurales se vident, ont moins d'enfants à scolariser et les zones urbaines, dont Avignon, sont en forte augmentation démographique. Pour ce qui est de la pauvreté, malheureusement oui, ça ne se sait guère, mais ce secteur périphérique d'Avignon est un quartier particulièrement pauvre, ce sont des quartiers politiques de la ville, et on a aussi un autre triste score, c'est que le quartier le plus pauvre de France, qui n'est pas Avignon mais ça pourrait, il est à Carpentras, c'est le quartier du Pou du Plan où vous avez le niveau de revenu mensuel par famille qui est le plus bas de France.
Alors justement, avec ces zones REP, REP plus, qui demandent moins d'effectifs par classe, est-ce que vous avez assez d'enseignants ?
Oui, je crois que j'ai assez d'enseignants. J'en veux pour preuve que donc nous avons mis en place la mesure de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui a été, dès son arrivée, le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les REP plus puis les REP. Et que ces mesures ont pu être mises en place sans difficulté. Tous les CP et tous les CE1 de REP et de REP+, à la rentrée prochaine, seront organisés en groupe, là où les locaux le permettent, et dans quelques cas, mais ça ne dépasse pas 20% des situations, nous serons en co-intervention, c'est-à-dire avec deux professeurs devant une classe entière, lorsque l'école n'a pas suffisamment de locaux pour dédoubler.
Avec une autre nouveauté, il y a eu cette réforme de l'apprentissage du français syllabique.
Il y a une modification des pratiques pédagogiques qui vise à une plus grande efficacité. Ça s'inscrit pas seulement dans des transformations de pratiques au CP, mais ça s'inscrit dans la continuité de l'école maternelle au sein de laquelle nous avons effectivement modifié aussi les pratiques pédagogiques pour mieux préparer à l'apprentissage de la lecture. Mais c'est vrai que ces secteurs connaissent des bouleversements profonds qui visent à lutter contre l'échec scolaire et qui visent à ce que tous les enfants puissent, à la fin du cycle prévu, atteindre les objectifs, les compétences et les connaissances. Et donc, on est effectivement dans une période de transformation assez profonde de l'appareil, puisque d'une part, on a des modifications structurelles par le dédoublement des classes, et d'autre part, des transformations des pratiques pédagogiques pour viser à davantage d'efficience.
Ici, nous sommes dans un quartier REP, un quartier où il y a beaucoup de familles d'origine étrangère, une sorte de ghetto de pauvres. Comment est-ce que l'école peut agir pour casser ces ghettos, donner à chacun une chance? L'école est quand même un des ascenseurs sociaux, peut-être le premier, pas le seul, mais un important ascenseur social.
Alors, l'école de la République reste un ascenseur social. Je crois que c'est important et je crois que nous œuvrons tous à ce que, effectivement, cet ascenseur social continue à fonctionner malgré toutes les difficultés. Comme vous l'avez dit, effectivement, nous sommes sur des quartiers où nous avons eu de fortes arrivées d'immigration. Parfois, certaines familles sont installées depuis longtemps, d'autres viennent d'arriver. C'est d'ailleurs une des difficultés auxquelles l'équipe de cette école particulièrement est confrontée. C'est beaucoup de néo-arrivants tous les ans et par plusieurs dizaines, parfois dans le même mois, ce qui nous amène à être confrontés à des situations un peu compliquées. Est-ce que l'école peut briser la misère ? Je crois qu'on le souhaite tous, on l'espère tous. En même temps, l'école, elle est surtout là pour essayer d'offrir à chacun de ses enfants des chances équitables de réussite scolaire. quel que soit leur pays d'origine, quelle que soit la langue maternelle, être capable de leur apprendre le français dans des délais extrêmement courts et le plus rapidement possible leur permettre de bénéficier des enseignements en langue française. C'est d'ailleurs notre première mission, c'est véritablement déjà de leur apprendre le français. Et ensuite, évidemment, ils sont intégrés dans les classes standards. C'est déjà une mission particulièrement ambitieuse que de faire réussir chacun de ces jeunes. Est-ce que par notre action, nous contribuons à une amélioration de la situation sociale du quartier? Ça, c'est déjà un peu plus compliqué à établir. Je crois que dans la continuité, notre préparation au collège, puis la réussite au lycée, elle est de nature effectivement à permettre aux jeunes d'être qualifiés et d'obtenir un emploi et donc du même coup de sortir de la misère. Mais c'est un cycle qui s'inscrit sur du long terme.
Dans le moyen terme, cette école, est-ce qu'elle est liée à un collège? Est-ce qu'elle est liée au centre-ville d'Avignon? Où sont tous les équipements culturels? Est-ce que les enfants peuvent aller dans ces lieux culturels? Est-ce qu'il y a aussi un maillage de lecture publique?
Cette école, elle fait partie d'un réseau REP. Ce réseau, il est constitué par une tête de réseau qui est un collège. C'est le collège Mistral. Un collège qui a la particularité de faire partie d'une cité scolaire, qui a donc une partie lycée. Effectivement, c'est un établissement de centre-ville et cet établissement connaît une dynamique particulièrement forte avec tous les partenaires culturels de la ville d'Avignon. Donc, les élèves de cette école ont la chance de faire partie d'un réseau qui est extrêmement dynamique et qui a à sa portée ce que la ville d'Avignon peut offrir en matière d'accès à la culture, en matière d'accès à la musique, en matière d'accès au théâtre, etc. Ça, c'est donc un point important. L'autre point, c'est que il vous a pas échappé que la ville d'Avignon est une des rares communes dans le département à être restée sur un rythme à 4 jours et demi, et que dans le cadre de son PEDT, son projet éducatif territorial, la ville d'Avignon met en œuvre des activités périscolaires qui sont des activités périscolaires riches, particulièrement bien organisées et avec des intervenants de qualité. Donc, ces élèves, effectivement, bénéficient de conditions d'accès à la connaissance et à la culture qui sont les meilleures.
Vous dites effectivement qu'il y a les temps d'animation périscolaire qui demeurent grâce à la commune, à la volonté de la maire, Madame L, ici en Avignon. Est-ce que ça n'amène pas de l'absentéisme? Et vous avez dit précédemment aussi que dans le quartier, il y avait des arrivées. Est-ce que la fameuse norme des dédoublements à 12 et plutôt jusqu'à 15 ne risque pas en cours d'année d'amener plus d'élèves dans ces classes dédoublées et donc de casser en fait le travail qui y est fait?
Incontestablement, nous avons des arrivées en cours d'année et les structures que nous calculons pour des effectifs prévisionnels de rentrée accueillent en cours d'année davantage d'élèves. Mais c'est un paramètre qu'on prend en compte. Par ailleurs, les groupes, si effectivement sont pas toujours calibrés à 12, il faut savoir que 15, c'est assez exceptionnel dans ce département et que la grande majorité de nos groupes en CP et en CE1 en éducation prioritaire sont entre 12 et 13 et quelques groupes sont à 14. 15, c'est assez exceptionnel. Nous veillons à ce que la taille de ces groupes, effectivement, ne les fasse pas par l'arrivée d'enfants en cours d'année aller vers des effectifs de classe entière parce que ça casserait la dynamique. Nous ne connaissons pas cette situation actuellement, et si on avait véritablement une grande difficulté par des arrivées massives d'enfants en cours d'année, on prendra les mesures qui s'imposent, c'est-à-dire qu'on constituera des groupes supplémentaires. On est en capacité de le faire, ça. On a toujours une possibilité de réactivité par rapport à des situations qui sont extraordinaires.
Alors justement, toute dernière question. Ici, on voit bien qu'on est dans une situation extraordinaire. Est-ce que vous avez assez de professeurs, d'enseignants, de moyens? On dit que le budget de l'éducation nationale est en progrès. Est-ce que c'est suffisant pour ces situations de pauvreté, ces situations d'exclusion quand même sociale? On le voit, hein.
Moi, je suis convaincu que les moyens dont nous avons besoin sont là, nous en disposons. Vous savez, le calcul des structures en éducation prioritaire, il est codifié par des seuils. Alors, effectivement, il y a une certaine flexibilité autour du seuil qui est un chiffre théorique, mais on parlait des groupes de CP et de CE1, c'est vrai qu'ils sont 12, 13, mais on oublie parfois de dire qu'il y a des groupes de 10 et des groupes de 11. Ça dépend, ça, effectivement, de l'effectif qu'on a à un moment donné et du nombre de classes. Le nombre de classes n'est pas transfiguré en permanence pour s'ajuster à un nombre de 12. Donc on a une flexibilité parce que construire un groupe supplémentaire, évidemment, ça va consommer un poste, mais parfois ça va faire baisser la taille du groupe en dessous d'un seuil qui risque de mettre à mal la dynamique pédagogique. Et 12, bon, c'est bien. On sait que les groupes de trop faible effectif sont des groupes qui manquent de dynamique pédagogique. Un enseignant, il a besoin d'avoir de la réactivité en face de lui. Donc il faut que le groupe ait une taille suffisante. Et puis pour ce qui est des autres niveaux, du CE2 au CM2, on est encadré aussi par des seuils. Et en éducation prioritaire en Vaucluse, le seuil théorique, il est à 24. Bon, je reconnais que parfois nous avons 25 de moyenne. Mais là aussi, ce sont des situations qui ne sont pas générales. Donc, en matière de moyens, ma politique, puisque j'ai la possibilité d'agir à ce niveau-là, ma politique, c'est vraiment de mettre ce qu'il faut en éducation prioritaire pour que de bonnes conditions de travail pédagogique soient mises en place. En revanche, il faut bien reconnaître que nous prenons de plein fouet nombre de difficultés auxquels, pour faire face, il ne s'agirait pas de rajouter des professeurs supplémentaires. Il s'agit d'avoir une mobilisation des équipes, un vrai savoir-faire, une prise en charge avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'ouverture humaine sur la nature du public que nous accueillons. Et nous sommes typiquement dans une école où l'équipe pédagogique est exemplaire de ce point de vue. Elle a une forte expérience, elle est très engagée au sein du quartier, elle connaît bien les familles. Et c'est ce lien entre les familles, les parents et les enseignants qui garantit, je dirais, une meilleure qualité de notre travail. Et là, on n'est pas sur des logiques de moyens, on est vraiment sur des logiques qualitatives et qui sont liées à la dimension humaine du fonctionnement de l'équipe pédagogique.